Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les questions sécuritaires sont primordiales sur la rive sud de la Méditerranée. C'est pourquoi il nous paraît intéressant d'examiner les efforts que font certains pays de la région en faveur du renforcement de cette sécurité régionale. Un premier exemple avec la diplomatie de médiation de l'Algérie, aussi bien vers la Libye à l'est que le Mali au sud. C'est une analyse de l'enseignant-chercheur Abdennour Benantar, spécialiste de ces questions de sécurité. Et un second exemple, celui des services tunisiens profondément réformés après la révolte de 2011. Des services qui coopèrent plus volontiers avec des pays lointains, européens ou américains, qu'avec leurs plus proches voisins, même si les choses sont en train de changer sous la pression des menaces djihadistes comme de la situation périlleuse de certains pays comme la Libye. Et vous retrouverez la revue de presse croisée en accompagnement de l'émission sur notre site www.rfi.fr, toujours avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Abdennour Benantar.
Bonjour.
Maître de conférence à l'Université Paris 8, spécialiste des questions de sécurité de la rive sud de la Méditerranée. Vous avez signé récemment un article sur le sujet dans le numéro de questions internationales consacré à l'Algérie. L'Algérie qui, rappelons-le, a voté début mai un scrutin législatif qui n'a pas particulièrement soulevé l'enthousiasme des électeurs, en cause principalement la crise économique qui affecte le pays. Alors Abdennour Benantar, cette crise économique a-t-elle des répercussions sur la politique étrangère de l'Algérie ?
Oui, certainement, dans le sens où elle va limiter un peu la marge de manœuvre de l'Algérie sur la scène internationale, notamment en direction des pays africains. N'oublions pas que l'Algérie avait, si vous voulez, effacé les dettes d'un certain nombre de pays africains. Je ne pense pas qu'elle est en mesure aujourd'hui financièrement de refaire le même exploit.
Notamment à cause de la chute des prix
voilà,
du pétrole.
Voilà, une baisse importante des prix et donc compte tenu de l'importance des revenus pétroliers pour les recettes du pays, ça impacte évidemment l'économie et ça a provoqué d'ailleurs l'arrêt d'un certain nombre d'investissements lourds en Algérie.
Alors la politique étrangère algérienne, la doctrine de cette politique étrangère est-elle toujours une doctrine de médiation ?
Oui, c'est une doctrine de médiation, mais je dirais qu'il se heurte à un certain nombre d'handicaps aujourd'hui. Un des handicaps majeurs auxquels est confrontée la diplomatie algérienne ces dernières années, c'est ce que j'appelle une sorte de multiplication des processus de médiation. Et si on prend le cas libyen, vous avez au moins trois processus, un processus parrainé par le Maroc, un processus parrainé par l'Algérie et un processus plus ou moins comparable parrainé par l'Égypte. Et le tout est plus ou moins, d'ailleurs moins que plus, parrainé par les Nations Unies. Et de ce fait, au lieu de trouver une issue à la crise, les acteurs majeurs de la région se neutralisent mutuellement. Et du coup, chaque processus, au lieu d'avancer, il est de fait conçu comme un mécanisme visant davantage à faire avorter le processus du voisin qu'à régler la crise libyenne. De ce point de vue, on peut analyser la crise libyenne comme étant symptomatique des rivalités régionales en Afrique du Nord, et donc y compris l'Égypte.
Cela dit, l'Algérie a une certaine légitimité à vouloir intervenir dans ce conflit libyen, puisqu'elle possède une frontière assez large avec ce pays voisin.
Oui, une frontière importante, près de 2000 kilomètres qu'elle partage avec la Libye, puis elle a essayé, en dépit des accusations venant du Maroc notamment, sur ses prises de position pendant l'intervention atlantiste en Libye, donc elle a essayé de rester à équidistance des deux parties majeures à l'époque, maintenant il y a plusieurs parties malheureusement, et donc ça lui a donné un peu une certaine légitimité qui fait que aujourd'hui c'est l'un des rares pays de la région qui parle à toutes les parties libyennes sans exception. Et d'ailleurs d'où le principe, j'allais dire, qui fonde la médiation algérienne en Libye, c'est l'approche inclusive. On parle avec tout le monde.
Y compris avec les éléments qui ont adhéré à l'État islamique.
Oui, d'ailleurs l'Algérie a reçu Belhaj, qui était un terroriste notoire, plus ou moins recherché en tous les cas, qui était indésirable en Algérie, puisque pour les Algériens, il est aussi terroriste qu'un certain nombre d'éléments algériens dans les années 90, mais qui a été reçu récemment, qui a visité récemment l'Algérie.
Et comment cette médiation soft est-elle perçue par la population algérienne ?
C'est très difficile à savoir parce qu'on n'a pas réellement de sondage pour savoir si les Algériens s'y intéressent réellement. Mais en tous les cas, on peut dire, sans grand risque de se tromper, que dans leur majorité, les Algériens sont contre l'intervention. Et ils estiment que le fait que l'Algérie ne soit pas intervenue dans ce bourbier arabe post-printemps arabe l'a épargné jusqu'à présent de ces troubles internes qui ont des ramifications internationales. Et il y a une idéologie anti-interventionniste très très forte, d'ailleurs, sur laquelle le régime s'appuie, le gouvernement s'appuie. Et donc, il y a une sorte d'alimentation réciproque. Une partie de la population justifie sa position par la position officielle, et la position officielle s'appuie sur le refus populaire de l'intervention pour justifier ses propres positions à l'échelle régionale et internationale.
Est-ce que cette position de médiateur régional, finalement, a poussé notamment l'Algérie à intervenir dans le conflit malien, qui est là aussi à sa frontière sud?
Alors, au Mali, c'est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus ancien et beaucoup plus complexe, dans le sens où la médiation algérienne remonte à la fin des années 80. J'allais dire, a vécu son âge d'or au début des années 90, etc. Sauf que pendant cette période-là, l'Algérie commençait à avoir ses propres problèmes internes, mais néanmoins, là, à continuer son processus de médiation. Mais à l'époque, elle se heurtait aussi à des rivalités, à des neutralisations mutuelles, puisque la France ne jouait pas le jeu de l'Algérie dans cette région-là à la fin des années 80, début des années 90. Elle ne soutenait pas le processus de médiation algérien. Et Kadhafi jouait l'élément perturbateur et essayait d'avoir, notamment avec sa politique africaine, lorsqu'il a retourné le dos à la Ligue arabe, il a découvert son africanité, etc. Lui aussi, il a essayé, par différents moyens, de faire avorter le processus de médiation algérien. Mais en dépit de ces obstacles, j'allais dire exogènes, je pense que l'Algérie n'a pas mis tous les moyens dans ce processus de médiation, et elle s'est limitée à un processus de médiation soft, mais qui ne s'appuie pas sur une autre dimension qui n'est pas hard au sens militaire du terme, mais les moyens économiques importants n'ont pas été engagés dans ce processus-là, parce qu'elle ne les avait pas, notamment dans les années 90. Et en définitive, on peut dire que elle a échoué dans son processus de médiation au Mali, puisque l'intervention française en est la preuve.
Justement, dans ce cadre de médiation, il y a un certain nombre d'accrocs. Donc, dans ce conflit malien, et aussi la question de l'Égypte qui avait été suspendue de l'Union africaine, et finalement l'Algérie a joué un rôle dans ce cadre.
Avec la fin du terrorisme vers 98-99, on a assisté à un retour en force de l'Algérie sur la scène internationale, mais un retour qui ressemble un peu aux années 70 où l'Algérie était le chef de file des non-alignés. Et donc, c'était un pays qui produisait du sens sur la scène diplomatique internationale et qui était, j'allais dire, source ou producteur de normes. Et à partir du 99, le pays va revenir sur la scène africaine, il va se remettre à nouveau à produire des normes, à contribuer à la production de normes et de sens diplomatiques sur la scène continentale. Et donc, le gouvernement va jouer un rôle majeur lors du sommet de l'OEA, l'Organisation Unité Africaine devenue Union Africaine, pour déclarer illégal tout changement non constitutionnel, c'est-à-dire les coups d'État. Et quelques années plus tard, l'Algérie va jouer un rôle majeur pour faire avorter ce principe-là, revenir sur ce principe-là, puisqu'elle a mobilisé tous ses moyens et son influence à l'échelle continentale pour mettre fin à la suspension de l'Égypte qui avait été suspendue à l'époque. Je rappelle que 5 États africains, dont l'Égypte, la Mauritanie, etc., avaient été suspendus par l'UEA suite à des coups d'État. Et là, c'est comme si ce processus normatif a été rattrapé, j'allais dire, par la pérennisation d'un certain processus autoritaire en Afrique du Nord.
Est-ce que l'Algérie cherche aujourd'hui à produire une musique diplomatique différente des autres pays arabes, notamment par exemple à propos des conflits syriens ou yéménites?
Ah oui, j'avais écrit, il y a une singularité algérienne en la matière, et cette singularité algérienne, je pense qu'elle est motivée par un certain nombre de considérations. La première considération, c'est peut-être lié à l'indépendance, une approche souverainiste poussée à son extrême, mais aussi à un certain conservatisme, mais un conservatisme favorable à la stabilité. C'est-à-dire que, mais ça renvoie un peu loin dans l'histoire arabo-musulmane. À une époque, il y avait un penseur qui disait, en cas d'instabilité, il vaut mieux un régime plus ou moins autoritaire, le temps de régler ce type de problème. Donc, je pense, de la perspective de la diplomatie algérienne, c'était de dire que, je vais faire un peu un jeu de mots, il faudrait mieux, il l'exprime pas ainsi, mais c'est ma propre reconstruction, peut-être j'ai tort, une sorte d'instabilité dans la stabilité. C'est-à-dire avec l'existence d'un État, même fragile, même instable, vaut mieux ça que des troubles à la Libyenne ou à la Yéménite. Ça, c'est le premier point. Le second point, il suffit de regarder un peu la carte de la région post-printemps arabe, on va constater que les États qui ont été touchés dans leur profondeur stratégique, ce sont des États qui faisaient tous partie du bloc progressiste pendant la guerre froide interarabe. Parce qu'il y a eu réellement une guerre froide interarabe à la marge de la grande guerre froide. Et donc, c'est comme si on assistait à une sorte de règlement de compte avec ces États-là. Et il se trouve aujourd'hui que les principaux acteurs qui sont derrière ce processus de déstabilisation des anciennes républiques du bloc progressiste sont des acteurs mineurs dans la région, excepté l'Arabie Saoudite. Et donc, ils prennent un peu une sorte de revanche conservatrice contre les progressistes, ce qui explique en partie la conduite de l'Algérie au sein de la Ligue arabe lorsqu'elle défend ses positions et donc elle critique celle des autres pays. Sauf que, jusqu'à présent, comme dans le cas malien, elle ne propose pas réellement d'alternatives crédibles.
Alors, autre élément de la diplomatie algérienne, c'est son caractère, écrivez-vous, laïque, et qui poserait peut-être problème dans la région, en tout cas qui se heurte à d'autres pays comme l'Arabie Saoudite que vous avez cité, et le Maroc, qui eux ont une diplomatie beaucoup plus religieuse.
Oui.
C'est cela.
Oui, ça peut lui poser un problème parce que paradoxalement, j'allais dire, le régime apprend ça à ses dépens, c'est-à-dire que à l'intérieur du pays, il contribue à sa manière à la prolifération d'un certain discours religieux puisqu'il y a une prédisposition au discours religieux dans le pays, sauf qu'à l'échelle internationale, il tient plus ou moins un discours laïque, mais qui n'est pas audible sur la scène régionale, parce que la scène régionale, elle aussi, elle a une prédisposition au discours religieux. Donc, il n'est pas très audible son discours, d'autant plus que c'est pas une démocratie. Donc, la seule manière de rééquilibrer ce contexte-là, d'équilibrer la diplomatie religieuse du Maroc et l'Arabie Saoudite, c'est de tenir un discours démocratique. Sauf qu'un État qui n'est pas démocratique ne peut pas tenir un discours démocratique, ça lui pose problème. Par exemple, il y a une avancée remarquable du Maroc au Sahel et en Afrique de l'Ouest grâce à la diplomatie religieuse. Le Maroc essaie, je pense qu'il essaie d'emprunter le pas à l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que avoir une diplomatie religieuse à la fois officielle et privée, hein, ce que font les Saoudiens à travers le wahhabisme, à travers des cheikhs, à travers des financements privés aujourd'hui, ce qui pose problème dans les relations d'un certain nombre de pays avec l'Arabie Saoudite, ce n'est pas autant le financement officiel du terrorisme, mais le financement privé, mais avec un degré de tolérance officielle assez élevé.
Finalement, l'Algérie donne l'image d'un pays qui a accompli assez peu de choses pour la sécurité régionale. Est-ce que c'est votre impression ?
Je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est un pays dont le rôle ou dont les processus de médiation, c'est ça qui est intéressant. Son implication dans les processus de médiation lointains est beaucoup plus intéressante que dans les processus immédiats, le processus lointain comme l'Éthiopie, etc. Pourquoi les processus immédiats ? Parce que ces foyers de tension viennent se greffer à des foyers de tension structurels qui existaient déjà dans la région, qui n'ont rien à voir avec ces foyers de tension conjoncturels. C'est dans ce sens-là où sa conduite de médiation se heurte à certains obstacles. Le deuxième élément, si vous voulez, second aspect de cette question-là, c'est qu'aujourd'hui, dans les faits, c'est on veut chiffrer l'effort régional, l'Algérie fournit le plus grand effort pour la stabilité et la sécurité régionale alors qu'elle n'est impliquée dans aucun de ces conflits dans la région et on peut dire qu'elle fait beaucoup plus que les grandes puissances qui sont censées contribuer très largement au maintien de la sécurité régionale.
Merci Abdennour Benantar, maître de conférence à l'Université Paris 8.
Je vous en prie, merci de l'invitation.
Et je renvoie à votre dernier ouvrage, Le Moyen-Orient, enquête d'un ordre régional, c'est publié chez l'Harmattan. Et à propos de la coopération régionale entre organisations chargées de la sécurité et du renseignement, voici ce qu'en pense Flavien Bourra. Il est spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Son analyse évoque la Tunisie et son environnement proche. Un mot de la coopération régionale ou internationale, si elle existe. Alors, on a vu que la personne qui a tué deux jeunes femmes à la gare Saint-Charles à Marseille, dans le sud de la France, était un Tunisien. Alors, même s'il avait quitté la Tunisie apparemment très jeune, il avait une quinzaine d'années, et qu'il n'était pas fiché en Tunisie, Qu'en est-il quand même de la coopération des services, notamment des services tunisiens, dans la région, avec ses voisins et avec ses voisins européens?
Paradoxalement, les services tunisiens et d'ailleurs maghrébins ont toujours favorisé une forme de coopération internationale avec des partenaires extra-maghrébins, notamment les pays occidentaux et les pays d'Europe, mais ça peut être aussi les États-Unis, que entre eux-mêmes. Hein. Vous le savez, la coopération et l'intégration régionale peinent énormément à se développer au Maghreb. Il reste malgré tout un climat défiance. Alors, il est vrai que le nouveau contexte depuis 2011 et surtout la crise libyenne et ses effets sécuritaires, la montée en puissance des groupes djihadistes dans l'espace sahélo-saharien ont conduit et contraint, disons, les régimes à davantage discuter et essayer de travailler ensemble. Alors, c'est un processus là aussi qui est très long. Il y a beaucoup d'habitudes, d'inertie et surtout, il y a un manque de confiance. Néanmoins, la Tunisie, qui est un pays qui n'a pas de contentieux d'ailleurs avec ses voisins maghrébins, qui n'en a pas avec l'Algérie, a développé donc un certain nombre de missions de mutualisation avec l'Algérie. Alors, tout ça n'est pas dénué éventuellement d'arrière-pensée. C'est au fond un peu normal, hein, les politiques des États. Mais il y avait eu un accord de défense, d'ailleurs, je crois, avant même la révolution entre l'Algérie et la Tunisie. Et là, il y a quand même ce qui ressemble quand même à une coopération. Je vous rappelle qu'il y a, alors cela reste résiduel, mais il y a un ou des groupes djihadistes implantés le long de la frontière algéro-tunisienne. Donc là, il y a de toute évidence nécessité d'un travail en commun. Avec la Libye, c'est beaucoup plus compliqué car l'État libyen a au fond quelque part implosé après la chute du colonel Kadhafi. On a actuellement plusieurs gouvernements qui se réclament de la légitimité et on a un éparpillement, une sorte d'éclatement de ce qu'on appelle l'usage légitime de la violence. C'est-à-dire que tout ce qui est défense et sécurité ne relève plus d'un corps central, mais de différentes factions régionales, etc. Et donc, très grande difficulté pour initier une forme de coopération solide et durable avec un État qui est quand même un État éclaté.
Et par rapport au Moyen-Orient et notamment la Syrie, on sait qu'il y a à peu près 3 à 4 000 ressortissants tunisiens, oui, qui seraient allés combattre avec l'État islamique et d'autres groupes islamistes en Syrie. Est-ce qu'il y a une coopération entre les services secrets ou de sécurité tunisiens et ses homologues de la région moyen-orientale?
Non. Alors, dans le cas de la Syrie, et d'ailleurs, c'est un reproche qui est couramment été exprimé à l'encontre du gouvernement de la Troïka, c'est d'avoir rompu les relations avec la Syrie. L'argument est de dire, d'abord, ça nous aurait permis de continuer, malgré tout, avec un régime bien sûr qu'on considère comme extrêmement brutal et violent, mais d'avoir encore des échanges sur cette question. Et puis aussi, ce que disent beaucoup de Tunisiens, c'est qu'au fond, en désignant le régime de Bachar el-Assad comme l'ennemi numéro un à battre, on a donné quelque part quitus, un blanc-seing à tous ces jeunes Tunisiens qui voulaient aller faire le djihad en Syrie et dont actuellement, on craint effectivement avec la défaite de l'organisation de l'État islamique sur le terrain, qu'ils reviennent sur place. Avec les autres États, oui, je pense avec l'Égypte notamment, mais encore une fois, la Tunisie est un pays du Maghreb, et donc peut-être davantage éloigné du champ stratégique du Moyen-Orient, reste effectivement la question des djihadistes. Je pense que la coopération reste dominante néanmoins avec l'Europe. Elle est en train de se mettre en place au niveau maghrébin, notamment avec l'Algérie, et je pense qu'avec le Maroc, il y a aussi des échanges, bien sûr. On peut imaginer aussi qu'il y a une amorce de coopération avec les pays du Sahel, les pays d'Afrique de l'Ouest.
Flavien Bourra, spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire à Paris. Orient Hebdo, une émission réalisée par Mathias Golshani que vous pouvez retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, le journal.